Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Demain à minuit, les cloches des églises sonneront un peu partout en France pour faire résonner dans la nuit l'annonce de la fête chrétienne de Noël. À Noël, les églises justement vont faire le plein de fidèles occasionnels. Comme tous ces pratiquants dubitatifs, ne sommes-nous pas nombreux en cette veille de Noël 2019 à avoir bien du mal à nous persuader que cette histoire de crèche nous concerne directement et qu'il s'agit là d'autre chose que d'une belle histoire? Et si à l'occasion de ce Noël nous faisions un pari un peu fou, croire que cette histoire nous concerne et que Dieu est aussi présent à notre vie qu'il le fut à ses parents et aux invités improbables de cette nativité? Noël dans ma vie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce lundi, dernier lundi de cet avant 2019. Nous nous retrouvons donc nos invités envoyés par les Coteaux Païs pour cette série donc en partenariat avec ces centres jésuites dans le sud-ouest. Autour du plateau aujourd'hui, Arnaud de Roland, vous êtes jésuite et responsable de la communauté à Toulouse et intervenant aux Coteaux Païs. Bonjour.
Bonjour.
Va nous rejoindre, du moins on l'espère, Jean Daïdé, donc directeur de recherche à l'école d'ingénieurs de Purpan et responsable donc de l'association Va et Devient. Et Marie-Ange Koulibaly, vous êtes laïque et animatrice pastorale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu donc au micro de Vivante Église pour cette dernière émission donc de notre série de l'Avent. L'introduction était un petit peu toujours la même. Arnaud de Roland, est-ce aussi un peu votre travail comme accompagnateur, on va dire spirituel ou accompagnateur de retraite, d'essayer de persuader les gens que Noël n'est pas une lointaine histoire? Alors je me disais, on peut avoir foi en cette histoire, considérer que c'est bien Dieu qui naît, et croire qu'il est Dieu dans notre vie, mais franchir le pas d'un Dieu quotidien réellement présent, est-ce que c'est pas dans le fond le travail de tout religieux tout au fond de sa vie?
Certainement, de témoigner de l'actualité du message de Noël. Je dirais ce choix qu'a Dieu de, on le fêtait, on l'entendait hier, d'être avec nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et de croire que ce n'est pas une histoire d'il y a 20 siècles, mais qu'encore aujourd'hui, il nous parle, il nous accompagne, et que c'est une histoire d'alliance. Et ça, je crois effectivement que c'est une grande grâce d'être accompagnateur, parce qu'on découvre et on aide les personnes à découvrir au fond d'elles-mêmes que Dieu est quelqu'un pour eux, le Christ, et qu'il leur parle, et qu'il les invite à engager leur liberté à sa suite, et d'être témoin de cette grâce de Dieu à l'œuvre dans la vie des personnes. C'est un beau cadeau qui nous est fait à nous, accompagnateurs.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, Arnaud de Roland, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une difficulté de fond, c'est que souvent les signes de Dieu sont des signes discrets. Il n'y a pas de roulement de tambour, c'est pas le cirque, c'est pas toujours grand spectacle, la vie chrétienne. Est-ce que ça, c'est pas entre guillemets un handicap pour Dieu, pour nous faire signe?
En même temps, il y a un dicton qui nous dit que le bien ne fait pas de bruit, que le mal en fait, mais qu'il y a effectivement quelque chose de plus discret. Et je trouve ça très révélateur que Dieu choisisse de venir parmi nous avec cette petite crèche de Bethléem, discrète, à une époque, voilà, dans une famille pauvre. Voilà. Mais que, nous le savons, ce qui me vient, c'est cette musique des béatitudes. Elle peut transformer des montagnes. Elle ne fait pas de bruit, mais ce sont des lames de fond.
Donc en tout cas, à vous entendre, et c'est ce qu'on a pu découvrir au long de cette série, comme souvent dans cette émission, il faut apprendre peut-être à regarder la vie et nos vies avec d'autres lunettes. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. On avait fait donc une première émission sur le thème de la prière, puis une émission donc sur le thème de la relecture, et aujourd'hui sur le discernement. Vous vouliez commencer par citer le pape François, qui dans sa dernière encyclique, donc on imagine que c'était Laudato Si, puisque je crois qu'il n'en a publié qu'une, parle du discernement. Je vais le citer. « Nous en avons toujours besoin pour être disposés à reconnaître les temps de Dieu et de sa grâce, pour ne pas gaspiller les inspirations du Seigneur, pour ne pas laisser passer son invitation à grandir. » Et puis un peu plus loin, « Je demande donc à tous les chrétiens de faire chaque jour en dialogue avec le Seigneur qui nous aime un sincère examen de conscience. » Alors là, ça revient à l'émission de la semaine dernière, le travail de la relecture. Pas surprenant pour un pape qui est lui-même jésuite. Pourquoi est-ce que vous insistez par ça ? C'est-à-dire que le pape, lui aussi, en bon pasteur, aimerait que chaque chrétien, quel que soit son niveau d'études, arrive à voir tout simplement les traces de Dieu dans sa vie. C'est là qu'est l'invitation ?
C'est là qu'est l'invitation, c'est là qu'est notre responsabilité. Moi, j'aime bien dire que être chrétien, c'est peut-être simplement nous disposer à recevoir la grâce. Nous disposer. C'est-à-dire qu'il y a des appels qui nous sont tendus, qui nous font, nous y reviendrons, qui nous aident à voir que la vie est de ce côté-là, que la vie de Dieu est de ce côté-là. Mais cela reste une grâce. L'initiative de Dieu reste pleine et entière. Mais nous, sommes-nous vigilants à cette grâce qui passe ? Et parfois, autre chose qui est très important dans la vie spirituelle, c'est que cette grâce peut passer et nous pouvons ne pas nous en rendre compte. Et saint Ignace disait que l'un des péchés les plus sérieux, les plus graves, c'est celui d'ingratitude.
Vous voulez dire que Dieu peut nous faire signe dans notre vie, Dieu peut intervenir dans notre vie et puis on ne s'en rendrait pas compte ?
Je crois que c'est assez souvent le cas, que effectivement il y a des moments où une joie nous est donnée, un courage nous est donné, que d'habitude nous n'arrivons pas à avoir à la force des poignets. Et une rencontre, un événement fait que nous traversons telle épreuve, nous avons l'unification de notre être qui nous est donnée, et cela est un cadeau de Dieu car... J'aime bien dire cela, le fruit de l'esprit qui est paix, joie, douceur, confiance dans les autres. Nous faisons tous l'expérience qu'il y a des moments où nous ne sommes pas joyeux, où nous ne sommes pas en paix, où nous ne faisons pas confiance dans les autres. Donc quand cela nous est donné, reconnaissons-le comme un cadeau de Dieu.
L'autre préalable, avant de se lancer dans l'explication du discernement selon la spiritualité ignatienne, c'est le visage, oui, que l'on donne à Dieu. Vous insistez sur, on va dire sur cette fausse croyance qu'on a, ce faux visage. Alors là, ça, c'est un long travail. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? Dieu, à vous entendre, et on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, en tout cas c'est la manière dont les gens de la spiritualité ignatienne le formulent, c'est que Dieu nous veut toujours plus vivants.
Oui. Il nous veut plus vivants. Alors, ce n'est pas les gens de la spiritualité ignatienne, c'est la Bible.
En tout cas, je remarque que vous le formulez comme ça.
C'est, hein, c'est la Bible. Souvenons-nous du passage dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome. Le Seigneur, après l'expérience de la traversée du désert, 40 ans au désert, etc., qu'est-ce qu'il va dire à son peuple ? Il va lui dire, je te propose la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Il va, entre guillemets, supplier son peuple. Choisis donc la vie. Choisis donc la vie. Et vous avez dans le Nouveau Testament le Christ qui nous dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc, le désir très profond de Dieu vis-à-vis de l'humanité, c'est d'être en alliance avec lui et que les hommes et les femmes puissent porter du fruit et être pleinement vivants. Alors on pourrait dire aussi, qu'il n'est pas de spiritualité ignatienne, saint Irénée, bien avant saint Ignace.
Pleinement vivant, ça veut dire quoi en fait, si vous deviez le dire avec d'autres mots ?
Eh bien je le dis avec les mots de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie pleine et entière de chacun d'entre nous, qui est en lien avec une dimension relationnelle. Être vivant, c'est être en relation avec.
Alors on se lance. On a entendu donc dans les deux dernières émissions parler des consolations et des désolations. J'aimerais que vous preniez davantage le temps de nous expliquer ce que sont ces consolations et ces désolations. On le fait souvent quand on parle donc de votre spiritualité. Alors même si ça concerne évidemment, comme vous dites, bien plus largement probablement la sagesse de l'Église, on cite pour ça donc la vie de saint Ignace de Loyola. Je ne sais pas si vous pouvez le faire rapidement et la manière dont il a identifié donc les consolations et les désolations. Allez, commençons par expliquer dans quel contexte il a fait cette expérience, et puis après on essaiera de bien préciser ce que ça veut dire consolation, désolation.
Alors d'abord, la première expérience fondatrice d'Ignace, c'est celle alors qu'il rêvait d'exploits, d'avoir été blessé à Pamplune, d'avoir les jambes brisées et de se retrouver à une trentaine d'années bloqué chez lui, avec des rêves de gloire qui sont tombés. Et voilà qu'il doit occuper le temps et qu'il voudrait lire des romans de chevalerie, il n'y en a pas. Et on lui fournit deux livres, Livre des Saints, La vie des Saints et Une vie du Christ. Et le voilà qui rêve, il a que ça à faire. Deux types de pensées. Continuer à faire des exploits pour une grande dame. Les historiens nous disent que c'était rien que moins que l'infante d'Espagne. Voilà.
Monsieur avait de l'ambition, oui.
Voilà. Et d'autre part, quand il lit ces vies de saints et cette vie du Christ, ça lui donne envie de faire aussi bien que saint François et saint Dominique. Dans les deux cas, quand il pense, ses pensées le traversent, il est super content. Il est heureux, etc. etc. Mais il y a une différence qui va lui demander du temps, et il dit un jour ses yeux s'ouvrirent, et il commença à peser une différence. Quand il pense à sa belle dame, sur le moment il est content, mais après ça le laisse sec et insatisfait. Tandis que quand il pense à réaliser les exploits de saint François et de saint Dominique, il est heureux sur le moment, mais ça le maintient dans la durée allègre, avec un dynamisme. Et ça c'est un élément de discernement spirituel qui va être tout à fait important, c'est de regarder les effets dans la durée. J'ai été aumônier d'étudiants, je renvoie à l'expérience d'étudiants, qui vous vont dire « pendant une soirée, je me suis éclaté », mais qui peut-être, en rentrant chez eux, vont rentrer tout tristes.
Alors Marie-Ange Colibailly nous fera part de son témoignage tout à l'heure, c'était pas tout à fait ça, mais par moments ça y ressemble un tout petit peu. Alors consolation, désolation, alors on va s'arrêter d'abord sur les consolations. Ce qu'on a pu entendre à Arnaud Drolan lors des précédentes émissions, c'est que les consolations c'est les moments que l'on peut trouver donc à l'occasion d'une relecture quotidienne ou de retraite dans sa vie où justement on a senti plus de vie. Ça se traduit, si j'ai bien compris, par de la joie, par de la paix, bref quelque chose qui nous fait du bien. Mais quelque chose qui nous fait du bien, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une ambiguïté? Ça veut dire quoi exactement quelque chose qui nous fait du bien?
Alors juste, d'abord une consolation spirituelle, c'est un mouvement spirituel, c'est-à-dire qu'on éprouve quelque chose en soi. C'est pas d'abord une question de qui nous fait du bien. La consolation spirituelle se caractérise par la dimension de relation à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous allons éprouver et qui nous tourne vers le Seigneur. Et cela de trois manières différentes. Et là, on va sortir de la caricature des consolations qui nous disent, grosso modo, où ça nous fait du bien, où c'est la joie, et puis terminé. Non, il y a trois formes différentes qui, je trouve, est intéressant de préciser. La première, effectivement, c'est quelque chose de l'ordre de l'élan amoureux, de l'élan de la joie. Tout ce que je vois autour de moi, je le vois à travers cet amour et à travers cette joie. Le meilleur exemple, c'est des amoureux. Ce sont des amoureux qui, tout d'un coup, nous disent, ils voient la vie en rose. Toute leur réalité est découverte et lue à travers l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.
Et je crois que c'était quelque chose qui concernait Dieu. Donc en l'occurrence,
C'est une expérience spirituelle qui est faite et que la personne...
On se sent amoureux de Dieu.
On se sent amoureux de Dieu, on se sent aimé de Dieu et on voit l'ensemble de la création comme l'œuvre de Dieu.
Donc première grande caractéristique,
de
la consolation.
De la consolation, allégresse intérieure qui nous tourne vers Dieu et qui fait que tout est vu sous l'angle, je vais dire, créateur de Dieu.
Ça peut arriver à tout le monde,
Ça peut arriver.
C'est pas de l'ordre de la grâce exceptionnelle, ça.
Non. Alors je dirais, là je vais jouer un peu au vieux briscard, ça arrive surtout au début de la vie spirituelle.
Voilà, mais si certains auditeurs s'y mettent, ça veut dire qu'ils peuvent avoir un beau cadeau de Noël.
Exactement. Alors,
Deuxième cas.
Autre cas qui, lui, est presque toujours oublié. Ce sont, nous dit saint Ignace, quand quelqu'un, une âme, il dira, verse des larmes qu'il apporte à l'amour de son Seigneur. Et il ajoute, soit à cause de la douleur ressentie pour ses péchés. Voilà. C'est-à-dire, c'est une forme douloureuse que l'on oublie presque toujours. Et je prends l'exemple pour illustrer cette deuxième forme de consolation, ce sont les larmes de Saint-Pierre au moment du reniement. Au moment du reniement, Saint-Pierre pourrait s'enfermer sur lui-même.
Donc c'est un passage des évangiles, je dis aussi pour ceux qui par hasard viennent un peu de loin, passage des évangiles où voilà, Pierre se retrouve face à Jésus et il pleure de l'avoir trahi.
De l'avoir renié trois fois. Et l'un des évangélistes nous dit que le regard, voilà, il vit le regard de Jésus, voilà, qu'il l'aima. Et quelle est l'expérience de Pierre ? C'est de découvrir qu'au cœur même de son refus de Dieu, l'amour de Dieu est plus fort pour lui que ce refus. Et ce sont des larmes qui jaillissent, des larmes qui, vous voyez, le tournent vers Dieu. Et ce ne sont pas des larmes de repli sur soi en disant « je suis moins bien que ce que j'espérais ». Donc l'accompagnateur spirituel va écouter dans une expérience douloureuse et parfois dans des larmes, dans un déchirement intérieur, etc. Si c'est plus de l'ordre de l'image de soi qui est un peu abîmée, ou si c'est quelque chose de l'ordre d'une expérience qui est faite, liée notamment au sacrement de la miséricorde, mais plus généralement dans la vie ordinaire, on peut penser aussi dans la vie de couple, lorsqu'un pardon est donné dans un couple, etc. C'est pas du tout une expérience confortable.
C'est-à-dire on se met à pleurer parce qu'on sent un remords, ça c'est
un remords,
c'est Dieu qui passe, à vous
mais
entendre.
Un remords qui nous tourne vers Dieu. C'est en cela que c'est une consolation spirituelle. Et non pas un remords, je le disais, qui est de l'ordre de « je suis moins bien que ce que j'avais espéré ». Deuxième forme, c'est clair ?
C'est clair. Troisième,
peut-être la troisième
plus
forme.
Ordinaire peut-être ou
plus ordinaire plus et très intéressante pour beaucoup d'entre nous et qui nous invite à la vigilance. Ignace nous dira, en définitive, « j'appelle consolation » tout accroissement de foi, d'espérance et de charité. On peut dire que ça ne se sent pas beaucoup. Accroissement de foi, d'espérance et de charité. La première forme, la grande joie. La deuxième forme, plutôt quelque chose de la douleur, des larmes, etc. Troisième, ça peut passer complètement inaperçu. Mais nous faisons tous l'expérience.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ?
Oui, je vais prendre un exemple. Vous allez visiter un malade dans un hôpital. Et vous allez découvrir que cette personne, au cœur même de la maladie, au cœur même de l'épreuve, rayonne d'une certaine paix. Et vous êtes scotché par cette paix et par cette confiance. Cette paix et cette confiance ne s'obtiennent pas à la force du poignet. Il y a quelque chose qui est donné par Dieu, nous le confessons, c'est un acte d'interprétation, un acte de foi. Nous confessons que Dieu, là, vient encourager la personne et vient lui donner un signe comme quoi il est avec elle et qu'il peut, voilà, et qu'il l'encourage. Accroissement de foi, d'espérance et de charité. Il nous arrive, au cœur de la vie quotidienne, de vivre des choses difficiles et on ne sait pas pourquoi, tel jour, quelque chose nous est donné que nous traversons plus facilement telle ou telle épreuve. Donc, entendons ce côté peu sensible mais qui est de l'ordre des vertus théologales et de l'ordre d'un accroissement. C'est davantage qu'avant.
Alors Arnaud Roland, juste si je résume, donc il y a deux types de grâce un peu exceptionnelles. Donc ce sentiment amoureux à l'égard de Dieu, au contraire ce sentiment de repentir. Je ne sais pas si c'est contraire, mais tout d'un coup on se rend compte de quelque chose qu'on a fait qui n'est pas glorieux et non.
Nous tourne vers Dieu.
Voilà, on n'est pas désespéré, on se regarde pas trop le nombril et on se tourne vers Dieu. Et le troisième, donc, ça serait toutes ces accroissements de vie au quotidien, ordonnés donc à la fois l'espérance et la charité. Faut-il avoir la foi en fait ? J'entends par là. Vous invitez en fait à une relecture spirituelle.
Tout à fait.
Mais quand vous prenez l'exemple par exemple de la vie de couple,
oui.
Quelqu'un qui, on va dire, va aimer davantage sans arriver à nommer ce plus de vie après un pardon à son épouse, pour prendre cet exemple, là, il y a quelque chose en fait de spirituel qui se joue, même si on ne le nomme pas comme tel.
Bien entendu, et réjouissons-nous, c'est ma conviction très profonde, que Dieu agit au cœur de tous, au cœur des croyants et des non-croyants. Donc je crois que c'est une chance et un appel pour chacun de nous de découvrir en l'autre l'action de Dieu, qu'il soit croyant ou non croyant. Et effectivement, quand nous nous adressons, moi j'ai quelques amis absolument non croyants, même athées revendiqués, etc. Et de temps en temps, je leur parle de ces consolations et désolations, mais en utilisant des termes sans forcément parler de Dieu, mais ils sentent en eux qu'il y a quelque chose de plus grand qui leur est donné et qui est à reconnaître.
Allez, on va faire une première pause musicale puisqu'on a un invité, Jean Daïdé, donc, qui a probablement été pris dans les bouchons. Vous allez donc être à la manœuvre dans cette deuxième partie. On va parler de la pratique. On continuera quand même à préciser donc, le discernement puisque au cœur du discernement, au-delà de ces consolations ou on va dire comme conclusion, comme manière de comprendre ces consolations et ces désolations, il y a donc un triptyque à découvrir, sentir, connaître et décider. On fait une première pause et on vous retrouve.
Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Noël dans ma vie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, cette veille ou presque de Noël. Autour du plateau, Arnaud de Roland, jésuite responsable de la communauté à Toulouse et intervenant au Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest, sud-ouest au sens large, Cotopaïs qui sont donc les partenaires de cette série de l'Avent, et Marie-Ange Koulibaly, laïque et animatrice pastorale. On continue donc à propos donc du discernement. On déborde un petit peu pour essayer de définir ou de préciser de quoi il s'agit en cette deuxième partie avant de voir un exemple pratique avec une session qui s'appelle En route vers une décision. Alors on a parlé des consolations et vous me rappeliez à l'ordre, Arnaud de Roland, évidemment il faut parler des désolations. Les désolations, est-ce tout simplement le négatif de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire on n'a pas d'élan amoureux vers Dieu, on n'a pas du tout de remords, on se regarde le nombril et on sent bien autre chose que l'envie de demander pardon à sa femme et lui faire des bisous, c'est ça ? Non, c'est un peu piège comme introduction. Quid des désolations ?
Non, c'est bien introduit au sens où effectivement Saint Ignace nous dira que la désolation c'est le contraire de la consolation. Donc voilà, Alors, évidemment, il ne prend pas exactement les exemples que vous prenez. Non, il va nous dire que nous faisons l'expérience, à certains moments, là encore, de mouvements spirituels. Il y a des moments où nous éprouvons une espèce de division intérieure. Il y a des moments où nous nous réveillons dans le brouillard. Il y a des moments où, nous dit-il, nous nous sentons comme séparés de notre Créateur et Seigneur. On ne sent plus Dieu. On se sent divisé. On n'a plus d'élan. Et les pensées qui nous traversent nous amènent plutôt vers des choses basses. Bon, voilà. Ça, c'est une expérience que nous pouvons faire. Ce qui est essentiel, c'est de la reconnaître, sans tout de suite dire c'est bien ou c'est pas bien.
Alors, c'est pareil, est-ce que vous pourriez prendre deux exemples? Un exemple flagrant et puis peut-être un exemple plus quotidien aussi c'est...
J'ai pris des exemples. Vous pouvez vous réveiller, vous pouvez vous réveiller le matin, vous partez au travail vous vous sentez sans élan, votre travail n'a plus beaucoup de sens. Vous pouvez même à ce moment-là, parce que souvent beaucoup de choses interrogent. Vous vous réveillez, je me tourne vers Marie-Ange qui est une jeune mariée. Mais voilà, on est à côté de notre conjoint et on se dit mais qu'est-ce que je fais avec lui? Voilà, bon, des expériences de division, d'hésitation, de trouble, etc. Ça peut nous arriver. Alors, si je peux prendre un exemple évangélique. L'exemple évangélique d'une désolation, c'est l'homme riche qui se tourne vers Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?»
Pour avoir la vie éternelle.
Pour avoir la vie pleine et entière. Et voilà que Jésus va lui dire « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il repart tout triste, comme un repli sur lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il avait de grands biens. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qu'il éprouve comme... un effet absolument contraire de la louange. L'inverse que l'on peut mettre en parallèle, et à la période de Noël, je crois que c'est bien de se rappeler, c'est la visitation. La visitation, c'est une expérience de consolation très grande, et pour Élisabeth, et pour Marie.
Alors juste, de même que pour les consolations, je vous disais, est-ce que c'est plus que se sentir du bien, enfin sentir que quelque chose nous fait du bien? Pour les désolations, on pourrait se dire, par exemple, en cette veille de fête, il y a peut-être un certain nombre d'auditeurs qui appréhendent les fêtes, ils ont le cœur lourd, ils peuvent du coup imaginer qu'ils vivent une désolation, mais je ne sais pas, quand les enfants ne viennent pas, ou que les liens familiaux sont rompus et qu'on n'y peut pas grand-chose, là, est-ce une désolation ?
Non, ce n'est pas une désolation, c'est une épreuve.
Quelle nuance ? Comment est-ce qu'on reconnaît l'un et l'autre, alors ?
La désolation, c'est l'âme se trouve toute paresseuse, tiède, triste, et nous dit Ignace, comme séparée de son Créateur et Seigneur. Vous avez des personnes qui vivent de réelles épreuves, mais qui se sentent néanmoins unis à Dieu et qui vont confier leur épreuve dans la prière au Seigneur. Donc, ce n'est pas une question d'épreuve, etc. Non, c'est une question dans la relation à Dieu, au même titre que la consolation nous renvoyait dans le cadre d'une expérience de relation à Dieu. Eh bien, l'âme désolée se sent comme séparée de son Créateur et Seigneur. Vous avez une expérience de désolation dans la vie même du Christ qui est impressionnante. C'est celle... sur le Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cela nous rappelle que l'expérience d'une désolation, c'est pas mal, c'est pas un péché, c'est une expérience qu'à tel moment, nous pouvons faire.
Pour essayer d'y voir plus clair, avançons. Il y a donc un triptyque pour le discernement. Via la spiritualité ignatienne. Et puis, on l'a dit au début de l'émission, voilà, le pape François invite toute l'Église à développer un art plus grand du discernement. On peut imaginer que ça concerne les grands théologiens, les pasteurs. On l'a vu à l'occasion d'Amoris Laetitia, cette exhortation apostolique donc sur l'amour dans la famille, qui a fait grand bruit, mais aussi donc pour notre vie à chacun. Alors, ce triptyque, c'est sentir, connaître, décider. Une fois donc qu'on aurait appris à discerner ces consolations et ces désolations, sentir, connaître, décider, comment est-ce qu'on s'y prend ?
Ce qui est important d'abord, c'est de repérer les trois verbes et leur progression. Il s'agit d'abord de sentir. Donc de prêter attention au mouvement intérieur qui nous habite. Si nous sommes tout le temps speed et que nous ne nous arrêtons jamais, nous ne prêtons pas attention à ce qui nous habite. Si nous ne prenons jamais le temps de la prière pour nous poser devant Dieu, nous ne prêtons jamais attention à notre relation à Dieu et au mouvement intérieur qui nous habite. Première chose, sentir. Deuxième chose, reconnaître. C'est là où le fait d'être accompagné, le fait d'avoir quelques règles de discernement, nous aide à distinguer, et là ce serait une autre émission, nous aide à distinguer les pensées qui nous traversent et d'où elles viennent, si elles viennent de la tradition spirituelle, beaucoup plus large qu'ignatienne, nous dira si elles viennent plutôt du bon esprit ou plutôt du mauvais esprit. Donc il y a un certain nombre de règles qui nous aident à d'abord, ce qu'on l'évoquait, reconnaître consolation, désolation, etc., mais faire le tri. Voilà. Donc reconnaître, c'est discerner. Distinguer.
On a entendu au long des émissions de cette série entendu. De l'avant, voilà. L'importance de passer par un tiers.
Passer par un tiers pour s'en rendre compte et pour mettre des mots dessus et avec un tiers, apprendre petit à petit à repérer des constantes.
À défaut d'être accompagné, d'où l'intérêt de toutes les sessions et retraites des Cotopaïs. On leur fera un petit coup
passage,
de pub à la fin de l'émission.
Merci pour la publicité. Et enfin, décider. Pourquoi ? Parce que je peux avoir repéré, je vais prendre un exemple très concret, je peux avoir repéré que le fait de laisser, on va dire ça, que laisser la nourriture du petit déjeuner le matin avec fruits, chocolat, etc. Dans ma cuisine, ne mette pas le soir quand je rentre du bureau parce que après une journée un peu fatiguée, j'ai des risques de me goinfrer avec tout ce qui était resté sur la table le matin. Et j'en parle à mon accompagnateur spirituel, etc. Bon, très bien.
On peut parler de ces choses-là avec son accompagnateur.
Et, oh oui. Ça peut être très intéressant. Pour repérer non pas le chocolat en tant que tel, mais l'effet produit. Si je m'aperçois qu'à plusieurs reprises, je me goinfre le soir en rentrant, et qu'après je suis malade, que je suis mal dans la semaine, etc., parce que ce comportement ne m'aide pas, en quoi, et ça, c'est une décision spirituelle, je repère l'effet produit. L'effet produit n'est pas de l'ordre de la vie. Donc je suis invité après à décider d'engager ma liberté et peut-être, avant de partir au bureau le matin, de ranger toute l'alimentation dans les placards.
Pourquoi est-ce que c'est si important de décider ? On se le disait en préparant l'émission, en fait, être chrétien, c'est pas seulement confesser le Christ, chercher Dieu, mais c'est un moment de quoi, changer de vie, changer de comportement, pour plus de vie, j'ai pas d'être moraliste.
Je dirais pour plus de vie et pour plus de liberté. Je crois que le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons pleinement vivant, mais j'ai envie de dire aussi pleinement libre, et que nous engagions notre liberté du côté de cette vie que Dieu nous donne, et d'aller dans ce même courant pour que nous soyons plus vivants. Ce n'est pas uniquement égoïste, c'est que si nous sommes plus vivants, nous aiderons ceux qui sont autour de nous à être eux aussi plus vivants.
On va prendre un exemple, on ne vous oublie pas, hein, Marie-Ange Koulibaly, vous nous donnerez votre témoignage à la fin de cette émission. Arnaud Roland, donc cette formation donc, des Cotopaïs en route vers une décision, donc ça fait partie des multiples propositions de ces centres jésuites dans le sud-ouest. La manière dont c'est vendu, j'ai envie de dire, comment sortir de l'indécision, tirer profit des choix déjà faits et avancer vers une décision libre, comment comprendre la volonté de Dieu et s'y ajuster, comment intégrer la vie spirituelle dans les choix familiaux, professionnels, associatifs, autant de questions qui sont posées pour inviter à suivre cette session en route vers une décision. Qu'est-ce qu'on y vit à l'occasion de ces sessions? On imagine qu'il y a une pédagogie un peu fixe pour toutes ces propositions et retraites.
Pédagogie plutôt variée, mais pédagogie dont les éléments courants, c'est toujours passer par des exercices. C'est-à-dire pas de grande théorie, mais une mise en pratique. Et je prends un exemple très concret dans cette session. On va proposer aux personnes de relire l'histoire de leur décision. Et de repérer qu'est-ce qui les a poussés à prendre telle décision, à quoi elles ont dit oui, question essentielle à propos du discernement, à quoi elles ont dit oui quand elles ont posé tel choix.
Alors vous parlez d'un arbre des bifurcations. Est-ce que vous pouvez prendre cet exemple ?
Eh bien, parce que
c'est
Qui dit choix, dit bifurcation. Quand nous décidons, là encore, j'étais aumônier d'étudiants, quand un étudiant décide de faire des études de médecine, il avait la possibilité sans doute de faire d'autres types d'études. Il a pris un choix. S'il choisit de faire du foot, de s'inscrire dans un club de foot, il pouvait sans doute aussi, dans le sud-ouest, s'inscrire à un club de rugby. Donc, la question, il y a des bifurcations, il y a des choix possibles.
Donc là, vous proposez de faire un dessin, c'est ça?
Oui.
De nos choix de vie?
De nos choix, qui peuvent être associatifs, qui peuvent être familiaux, qui peuvent être scolaires, universitaires, professionnels. Et de repérer, ce qui est essentiel, c'est de repérer les constantes. Repérer qu'est-ce qui revient régulièrement. Qu'est-ce qui était premier pour moi? À quoi j'ai dit oui? Pourquoi cet arbre est tout à fait essentiel? Et ça, je le dis à l'ensemble de nos auditeurs, une des raisons principales de l'indécision, c'est que nous croyons trop souvent que le choix que nous avons à poser, c'est le premier de notre existence. Et nous ne tenons pas compte de l'expérience acquise par nos multiples choix, et alors, non seulement les choix, mais les effets de nos choix. C'est-à-dire que je prends un exemple très concret, si vous êtes casse-cou, et que depuis votre plus jeune âge, votre père, etc., vos amis, etc., vous ont dit « attention, attention, tu prends trop de risques, etc. etc. » Si le moment où vous avez à prendre une décision, vous avez deux pistes, l'une qui est du côté d'un risque un peu grand à prendre, et l'autre qui est du côté plus sage, si vous vous êtes rendu compte que vous avez pu mettre votre vie en danger à plusieurs reprises et mettre en danger la vie des autres, etc., vu votre tempérament, l'effet produit vous invite à la prudence. Par récurrence.
Ce qui est plutôt une bonne chose, en l'occurrence.
Ce qui est plutôt une bonne chose.
Et donc la personne,
au moment de prendre sa décision, tiendra compte de ce qu'elle est, de son tempérament, des effets produits de ses décisions. Mais vous pouvez avoir exactement l'inverse avec une personne qui, par nature, est timide et qui a repéré, par exemple, si elle était scout, qu'avant chaque week-end, elle tremblait à l'idée de partir en week-end. Mais qu'à chaque fois, elle rentrait heureuse d'avoir pris tel ou tel risque. Eh bien, au moment où elle va avoir peut-être les mêmes choix que cette autre personne, elle choisira peut-être de prendre davantage de risques.
Alors ça, c'est, on va dire, le fruit d'une relecture sage, mais on peut imaginer qu'à l'occasion de cette relecture, on peut découvrir que, par exemple, on a un manque de liberté structurelle dans sa vie parce qu'on est orienté en fonction d'une injonction familiale ou d'une certitude personnelle qu'on n'est pas capable de...
Alors, du point de vue spirituel, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que c'est repérer à nouveau les marges de manœuvre. Trop souvent, là encore, dans l'indécision, nous sommes dans le tout ou rien. On dira « Ah ben je n'y peux rien, c'est ma famille. » Et donc on pourra se poser la question « Quelle est ma marge de manœuvre pour avancer par rapport à cela ?» Et peut-être petit à petit, pas à pas, trouver davantage de liberté par rapport à mon environnement familial.
Arnaud Roland, est-ce qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir ça? J'aimerais qu'on finisse sur cette notion de vous inviter dans ces retraites à réfléchir entre autres sur la volonté particulière de Dieu à partir d'un texte, bref, à essayer de créer une espèce de complicité avec Dieu pour dessiner un chemin de vie où de part et d'autre, on va dire, il y a deux acteurs. Mais est-ce qu'on peut se réveiller en fait à 60, 70, 80 ans et se dire tout d'un coup ben oui en fait je sais pas je manque de liberté ou il y a une voix que j'ai pas entendue et il peut encore se passer quelque chose à cet âge-là.
Eh bien c'est l'expérience...
Pardon pour les auditeurs un peu âgés hein, mais
c'est une expérience régulière que nous faisons dans les retraites. Il n'y a pas d'âge pour découvrir que Dieu me parle dans mon existence et qu'il me guide et que je suis invité à répondre en liberté et avec joie à cette présence qu'il souhaite au milieu de nous.
Donc on peut découvrir un plus de vie tout d'un coup, des ornières ou des...
À tout âge, mais je suis... Voilà.
On va passer le ballon à Marie-Ange Koulibaly. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver, Marie-Ange. Vous allez nous dire un petit peu comment vous avez découvert cette sagesse du discernement. Est-ce que ça a changé dans votre vie ?
Thank you.
présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Noël dans ma vie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, troisième émission de notre série de l'Avent. Pour ceux qui nous rejoindraient, autour du plateau, Arnaud Droland, jésuite responsable de la communauté jésuite à Toulouse et intervenant au Coteau Païs, partenaire de cette série de l'Avent, et Marie-Ange Koulibaly, laïque et animatrice pastorale. Marie-Ange Koulibaly, merci de vous avez été discrète, mais voilà, c'est un peu la logique de cette émission d'essayer de dérouler ça pour que ça soit le plus compréhensible possible. On va voir vous dont la manière dont vous avez découvert cette sagesse qu'on essaie de dévoiler, même si c'est rapide, hein, il faut aller faire après des retraites, se faire accompagner, bref, il faut creuser. Comme toujours, je vous l'avais dit, ce qui fonctionne bien, c'est de voir un petit peu l'avant, le pendant et l'après. Alors, si on commence par l'avant, quelle était votre vie ou votre vie spirituelle? Vous me disiez, vous avez la foi depuis le début de votre adolescence, depuis l'âge de 12 ans, en tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. À quoi ressemblait un petit peu votre vie spirituelle avant de découvrir cette sagesse qu'on déroule?
Alors moi, c'est vrai que les décisions ont toujours été quelque chose d'assez difficile à prendre. J'étais facilement dans l'indécision et beaucoup dans l'imagination, en fait. J'ai une imagination débordante. Donc, je pouvais imaginer plein de choses qui pouvaient m'arriver, les différentes décisions que je pouvais prendre dans ma vie, surtout quand on est jeune. C'est une période où on a beaucoup de décisions à prendre. Et en même temps, c'est quelque chose d'heureux parce qu'on se dit « tout est possible ». Et en même temps, c'est assez inquiétant parce qu'on se dit quels sont les bons choix à prendre pour ma vie.
Alors ça vous mettait dans une espèce de... je crois qu'en peinture italienne, on dit sfumato, c'est-à-dire vous étiez un peu... Il y a un brouillard, non?
Un peu un brouillard, un peu aussi une ça inquiétude de se dire si je choisis ça, qu'est-ce que ça va produire dans ma vie? Mais est-ce que c'est la bonne décision, etc. Donc c'était quelque chose qui... prendre des décisions à cet âge-là, c'est des choses qui peuvent parfois angoisser ou inquiéter.
Et notamment... ça vous compliquait beaucoup la vie?
Pas beaucoup la vie, mais c'est vrai que en tant que jeune, c'est des choses dont on discute souvent, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie, etc. Et moi, c'était vraiment la période du choix de la vocation.
Alors expliquez-nous, vous aviez un exemple.
Oui, exactement. Quand je suis sortie de mes études, je me demandais, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, pourquoi pas être mariée, pourquoi pas être religieuse, je savais pas du tout. Et ça créait un stress chez moi parce que je me disais, j'ai envie de savoir et j'ai envie de savoir vite.
Alors c'était un jour le voile et un jour Pierre, c'est ça?
Exactement. Bon, Pierre s'appelait Aziz, il s'appelle toujours Aziz. Donc à cette époque-là, je me demandais, voilà, moi j'ai un appel, je sens un appel voilà, à voyager, à faire des grandes choses, à être dans des orphelinats. Donc de métier, je suis éducatrice spécialisée. Et je me disais, mais je pourrais passer toute ma vie en fait, par exemple à m'occuper des enfants, des rues, à voilà, faire des choses comme ça. Et ça me donnait beaucoup de joie. Et je me disais, pourquoi pas faire ça toute ma vie, en fait? Pourquoi, excusez-moi, mais me fatiguer avec un mari et des enfants? Pourquoi est-ce que je ferais pas ça à temps plein?
Et le lendemain... Vous aimiez bien Aziz, c'est ça?
En même temps, j'aimais bien Aziz. Et donc, le lendemain, je me disais, mais oui, en même temps, être mariée, c'est sympa, parce qu'il y a plein d'autres avantages, etc. Et donc, c'était un brouillard dans ma vie.
Ça devait être fatigant, mais je souris, parce que qui n'a pas fatigant. Été concerné parfois par ce petit... Alors, comment est-ce que vous avez découvert cette spiritualité, j'allais dire presque cette méthodologie spirituelle, hein, le mot est peut-être mal choisi, qu'on découvre au long de ces émissions?
Alors moi, ça a été d'abord par l'accompagnement spirituel. Donc je sentais que j'étais dans une période où il fallait que j'ai
donc l'accompagnement spirituel, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on choisit une personne qui a une certaine sagesse et expérience, et puis on lui expose un petit peu sa vie et les mouvements de son cœur et de son âme. Voilà.
Exactement. Donc moi j'étais à une période où je sentais qu'il fallait que j'ai quelqu'un de confiance, qui soit plus âgé et qui ait plus d'expérience justement dans le discernement, pour m'aider à poser mes propres choix. Et donc, j'ai eu la grâce de rencontrer une religieuse, du coup, qui m'a beaucoup aidée, en fait. Bon, moi, je suis quelqu'un de très bavard, donc je parlais beaucoup. Mais elle, chaque fois, allait faire un petit point sur... donc, tu as vécu ça, mais qu'est-ce que ça a fait en toi? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon pour la suite? Et ça m'a beaucoup structurée aussi, déjà d'apprendre à relire ma vie. Et donc, ça a été un peu mon début... dans le discernement ignatien.
Alors vous avez découvert après les moyens dont Dieu nous parle, il y en a de multiples, hein, par sa parole, on va y revenir, par les événements de la vie, voilà, vous voulez peut-être compléter, c'est quoi Arnaud Droland, les grandes manières dont Dieu nous parle déjà? Je crois que
Vous l'avez dit,
la parole,
par la parole
les
et
événements.
Par les événements, et surtout dans les deux cas, l'effet produit en nous. Fruit de l'esprit, on peut retenir Galates, chapitre 5, les versets 22-23. Le fruit de l'esprit, paix, joie, douceur, confiance, etc.
Alors, Marie-Ange Colibali, vous avez un coup de cœur pour la parole de Dieu, vous avez commencé à découvrir la manière dont la parole pouvait éclairer votre vie. Expliquez-nous.
Exactement. En fait, j'ai fait une formation avec une communauté qui s'appelle Le Chemin Neuf, qui a une spiritualité ignatienne. Et donc, j'ai appris vraiment à prier avec la parole. Et j'ai découvert que jusqu'alors, la parole de Dieu, c'était quelque chose de très abstrait qui ne me concernait pas, en fait. Et dans la prière avec la méthode ignatienne, j'ai découvert que, en fait, quand je lis la parole de Dieu, la Bible, ça me parle dans ma vie à moi actuellement. Et ça m'éclaire, en fait.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ?
Justement, par rapport à
exemple
ce choix...
passé, en l'occurrence. Oui.
Par rapport à ce choix de la vocation où j'étais vraiment dans une sorte d'inquiétude, etc. Il y a eu un passage qui m'a beaucoup marqué, c'est le passage d'Abraham, quand Dieu lui dit dans l'Ancien Testament, donc quitte ton pays, ta parenté, etc., vers le lieu que je t'indiquerai. Et en fait, en lisant du coup ce passage, j'étais un peu choquée de me dire, mais Dieu lui dit de partir, mais il ne lui dit pas où. Il lui dit vers le lieu que je t'indiquerai. Et donc, en fait, j'ai ressenti ça comme, pour moi, un appel à, en fait, à lâcher prise, à arrêter de réfléchir tout le temps où est-ce que je serai, où est-ce que je serai, où est-ce que je serai, et à juste vivre le moment présent et dans les événements que je vais vivre, j'aurai ma réponse, mais que je ne dois pas forcément avoir des exigences sur le moment où je vais savoir, comment ça va se passer, etc.
Donc, suivre Aziz ou aller dans un orphelinat, mais faire confiance à Dieu, on va dire, sur les modalités, c'est ça ? De ne pas vouloir avoir la conclusion avant de se lancer.
Exactement. En fait, d'accepter que la réponse me sera donnée, mais que je dois d'abord vivre ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Voilà.
Pour finir, maintenant, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça a changé ? Il n'y a plus les montagnes russes dans votre cœur comme ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est installé au long des années à force de fréquenter cette, ou de mieux comprendre cette manière de discerner les appels de Dieu dans sa vie ?
Déjà, j'ai pu poser un choix qui m'a libérée. Et
dites-nous, on brûle de savoir.
Du coup, je me suis mariée avec Aziz.
Aziz gagnant, bravo.
Et en fait, tout ce cheminement que j'ai vécu pour choisir, en fait, ça m'aide maintenant dans mon quotidien, puisque déjà la prière, je ne priais pas vraiment avant. Et là, vraiment, je me fixe de prier au moins 30 minutes chaque matin. Et dans cette prière-là, en fait, maintenant, je remets aussi à Dieu mes préoccupations. Donc, je suis plus seule avec moi dans ma tête, mon imagination, tout ce que je pense que je dois faire, je ne sais pas, dans ma journée, comment l'organiser, etc. Maintenant, je remets tout à Dieu, en fait, et j'essaie du moins de collaborer, en fait. Par exemple, pour le travail, donc je suis partie un an en Afrique, justement dans un orphelinat. Et quand je suis revenue en France, bah, du coup, il y avait la question professionnelle, qu'est-ce que j'allais faire ? Et donc, j'ai vraiment pris ce temps aussi de discerner où est-ce que je suis appelée à travailler, en fait. Et je sentais que c'était pas...
Alors, vous avez posé la question à Dieu, c'est qu'on m'expliquait.
Exactement.
Voilà, ce qui n'est pas commun, mais ce qui peut être fait.
Voilà, je demandais à Dieu, mais où est ma place, en fait ? Exactement. Et je sentais que ce n'était pas éducateur spécialisé que j'allais, dans lequel j'allais travailler.
Alors, je sentais, ça veut dire quoi ? Vous pouvez détailler un petit peu.
Bah, je relisais un peu mon expérience dans ce centre-là pour les enfants de la rue dans lequel je travaillais. Et ce qui revenait chaque fois, c'est le moment. Donc, du coup, j'étais éducatrice, hein, mais le moment qui me marquait le plus dans la semaine, c'est la catéchèse avec les enfants. Et chaque lundi, c'était vraiment. J'attendais ce moment. Et quand je relisais, je me disais, c'est ça que je veux faire en fait en rentrant en France. Et ça se confirmait dans la prière. J'avais beaucoup de joie, beaucoup de paix. Comme disait tout à l'heure Arnaud, les fruits en fait. Était bon, donc j'ai compris que c'était là que je devais m'orienter.
Vos parents ont dû faire une drôle de tête, non, quand même, de vous payer des études d'éducatrice spécialisée et puis vous choisissiez autre chose.
J'ai la chance d'avoir...
Dieu peut aller contre la volonté des parents, c'est incroyable, ça.
J'ai la chance d'avoir des parents qui... du moment que leur fille est heureuse, eux sont heureux, donc je rends grâce à Dieu pour ça.
Au-delà de cet exemple, à vous entendre, et puis quand vous m'aviez un peu présenté votre témoignage, on entendait qu'il y avait une forme de stabilité qui s'était installée. D'ailleurs, on sent que vous avez quand même, je ne sais pas exactement l'âge que vous avez, mais qu'il y a
26 ans.
Voilà, il y a quand même une maturité certaine. Vous êtes tranquille parce que vous savez que Dieu vous accompagne et que si vous lui posez des questions, en fait, il peut vous répondre.
Exactement. En fait, ça met dans un état d'esprit aussi de tranquillité parce que on n'est plus dans cette crainte chaque fois de l'avenir, de qu'est-ce qui va se passer, comment gérer mes relations. En fait, quand on remet tout à Dieu, on a les réponses qu'on cherche en fait.
Arnaud de Roland, pour finir et essayer de faire en sorte que peut-être votre réponse rejoigne ceux qui ont la foi ou ceux qui l'ont un petit peu moins. Dieu peut vraiment nous parler pour en toute chose si on se met à prier, à écouter ou à réécouter ses émissions, on peut les commander hein, ou à aller donc suivre ses retraites, différentes retraites qui sont proposées dans le cadre des Cotopaïs. Dieu peut devenir ce compagnon qui nous parle et qui nous fait faire des choix qui nous rendent heureux tout simplement.
Oui, et je crois que l'exemple que nous a donné Marie-Ange est tout à fait révélateur. C'est Marie-Ange qui disait « collaborer avec Dieu et percevoir Dieu comme celui qui travaille avec moi. Et nous allons fêter Noël. Nous fêtons Dieu qui vient parmi nous. Eh bien, dans notre expérience, nous découvrons que nous ne sommes plus seuls. Je disais, la vie, c'est quelque chose de l'ordre de la relation. La vie pleine et entière. Et nous découvrir en relation avec Dieu et découvrir Dieu comme un partenaire de notre vie. Et cela, je dirais, vous l'avez dit par rapport à Marie-Ange, vous avez dit, je sens une certaine stabilité. Voilà. Et il y a quelque chose d'une maturité, il y a quelque chose d'une relation qui est structurelle. Relation dans un couple, relation avec les autres, relation avec Dieu. Et Dieu comme partenaire de notre vie, c'est ce que nous allons fêter à Noël.
Eh ben merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église et merci beaucoup Cotopaïs pour cette belle série de l'Avent. Je le dis aux auditeurs, vous pouvez tout simplement appeler la radio pour commander les CD. On vous fera un coffret spécial avant 2019, Noël dans ma vie. Pour ça, vous appelez tout simplement le standard de la radio, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Et puis une adresse internet pour les Cotopaïs, coto-pais.net, coto-pais.net. Et puis si vous n'avez pas internet, vous demandez à votre paroisse, votre curé, votre diocèse. Les Cotopaïs sont connus dans le sud-ouest. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.